samedi, Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Claire Keim, à l'affiche de la pièce La Garçonnière au Théâtre de Paris.
J'espère que vous allez bien, surtout vous le savez, une fois par semaine, c'est une grande interview d'une heure. J'y viens avec plaisir dans cette station pour rencontrer des que je connais et d'autres que je ne connais pas et d'autres que je connais moins. Et Claire Keim fait partie de ces invités que je connais peu et que pourtant j'ai l'impression de connaître. D'où ça vient le fait que vous soyez populaire, qu'on a l'impression de vous connaître, mais qu'en fait vous êtes assez réservé?
Oh, je sais pas. En fait, c'est vrai que c'est étonnant. Il y a des gens qui voient très bien qui je suis tout de suite et d'autres qui me demandent ce que je fais dans la vie. Et donc, c'est très agréable parce que c'est une grande liberté.
En ce moment, vous dites « je suis comédienne ».
Oui, alors souvent, alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent « mais non, mais elle est chanteuse ». Non, non, elle n'est pas chanteuse, elle joue dans des séries télé. Mais non, elle fait du théâtre. Non, 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 je l'ai vue dans un film aussi. Donc en fait, j'aime assez cette liberté. J'aime bien le fait justement
Dire, vous l'avez voulu, cet éclectisme?
Oui, mais en fait, je ne l'ai même pas choisi. Je crois que depuis toujours, j'adore faire plein de choses. C'est vrai qu'en France, on a un petit problème avec les gens qui font plein de choses. On a du mal à accepter l'idée de ne pas pouvoir les mettre dans des cases. Et du coup, bah, à un moment donné, j'étais une actrice qui chante. Après, j'étais une chanteuse qui joue la comédie. Puis comme... Alors, heureusement que je ne dis pas que je fais du dessin et du collage et de la sculpture et de la mosaïque, parce que sinon, ça serait terrible.
Vous faites tout ça?
Ah oui, moi, c'est vrai que je ne sais pas si je le fais bien. En tout cas, j'adore avoir des supports différents pour exprimer ce qui boue en moi. Et donc, parfois, ça passe par des chansons. Parfois, ça passe par la participation à des films qui traitent de sujets qui m'intéressent. Parfois, ça se traite par des... Voilà, aussi, je mets aussi le monde associatif dans tout ça parce que ça fait partie des choses qui me font du bien, rencontrer des gens qui se bougent, qui cherchent des solutions pour un monde meilleur. Ça aussi, ça me prend du temps. Donc voilà, parfois, les gens aussi me connaissent des enfoirés. Mais que des enfoirés, ils ne savent pas ce que je fais dans la vie à côté de ça.
Vous avez toutes ces facettes dans votre vie, vous êtes multifacette, vous pouvez avoir plusieurs visages.
Ah oui, mais je crois vraiment comme tout le monde. Et même dans la même journée, je crois qu'on peut être quelqu'un de totalement différent d'un instant à l'autre.
Là, vous allez prendre le visage de l'interviewé.
D'accord.
Pendant une heure, vous êtes au Théâtre de Paris, ça s'appelle La Garçonnière. C'est déjà un grand succès. Guillaume de Tonquédec va à l'Eurolière, probablement, j'espère, récompensé. C'est une chance que d'être dans un succès quand on est comédienne.
Ah, c'est évidemment une chance.
Non seulement il y a votre propre réussite, votre propre parcours, mais il y a tout ce qui va avec. C'est une chance.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien d'être dans un spectacle déjà dont on est très fier, où tout le monde s'accorde à dire, en dehors de notre propre performance à nous-mêmes, que le décor est hallucinant, les acteurs sont merveilleux, la pièce est géniale, le théâtre est magnifique, le Théâtre de Paris est un endroit vraiment sublime dans lequel j'ai débuté.
Vous connaissez bien, on a l'occasion d'en parler.
Et oui, et du coup, c'est vrai que c'est agréable d'être dans un gros bateau qui fonctionne très bien, parce que du coup, on se dit que voilà, si on tient bien notre petit poste de mousse et qu'on fait exactement ce qu'on a prévu de faire, normalement, ça devrait bien se passer.
Alors, le principe de l'émission est très simple. Il y a une tablette devant vous avec votre belle photographie qui est d'ailleurs très proche de la réalité. Donc,
merci.
On n'est pas déçus. Et à partir de là, il y a des mots. Et avec ces mots, moi, je dois, c'est mon boulot, faire des questions. Et vous, alors là, c'est votre
marrant.
Mission, faire des réponses. Alors,
allez-y,
vous pouvez slider.
Voilà. Slide.
14 ans. Où est-ce que vous étiez à 14 ans?
Alors, ça dépendait des moments. Le mercredi et le samedi soir, j'étais dans un cabaret sans lisien. Où je chantais.
Senlis, c'est là où vous êtes née.
C'est là où je suis née, c'est là où, c'est là où j'ai grandi et là où mes parents travaillaient. Et il y avait un cabaret dans lequel jouait un copain à moi qui était guitariste. Et puis on s'était croisés à une fête un soir et puis on avait chanté ensemble et nos voix s'accordaient bien. Et du coup, il m'avait proposé de venir chanter avec lui. Et ce garçon qui s'appelle Guillaume Coignard, il est devenu prof de chant. Donc c'est génial parce qu'en fait, sans m'en rendre compte et sans qu'il ne s'en rende compte lui non plus, en fait, il me donnait déjà des petits trucs. Il avait déjà cette pédagogie. Et puis, il avait déjà des très, très bonnes bases. Et du coup, grâce à lui, j'ai pu poser ma voix. J'ai pu chanter des choses très, très différentes. Ça allait de Earth, Wind and Fire à Cabrel, en passant par Metallica, les Beatles, Nina Simone.
Mais vous saviez ce que vous vouliez faire quand vous aviez 14 ans?
C'est très étonnant parce que je vous promets que je ne me rappelle même pas du moment où je me suis dit « je vais être artiste ». Pour moi, je suis née artiste. Je ne savais pas trop par quel chemin ça allait passer.
Vos parents étaient artistes?
Non, mais bon, mon père un peu, parce que architecte, du coup, dessinant beaucoup.
Créatif.
Très créatif. Enfin, à la fois, mon père, c'est un matheux au départ. Il a fait des études vraiment scientifiques. Et puis après, il a fait les Beaux-Arts. Donc, c'est quand même à la base quand même quelqu'un de très, très... oui, plutôt un scientifique. Mais il a quand même Bah, ils nous ont éveillés, mon frère et moi. Mes parents, c'est vrai, très tôt, au dessin, au musée. C'est vrai qu'on a eu une éducation artistique, ça c'est certain.
Alors, être artiste, c'est quelque chose. Être une personnalité publique, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être artiste dans son coin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'expose.
Oui, il faut s'exposer, oui.
Ah, on est d'accord ?
Oui, c'est compliqué.
Quelquefois, j'ai l'impression que vous étiez en désaccord avec cette exposition, avec quand même l'envie de faire et aussi le fait que ça pouvait éventuellement vous déranger.
Le problème, c'est que je me suis rendu compte un peu tard que c'était un métier de répondre à une interview. C'est-à-dire qu'au départ, j'y suis allée vraiment en toute spontanéité. Et j'ai été assez blessée, souvent, de ce qui pouvait être retenu de mes interviews et de mes interventions. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, on pouvait vraiment, avec une interview, faire dire à peu près ce qu'on voulait à quelqu'un. Il suffisait de poser les questions. En fait, je me suis rendu compte assez tard qu'une interview, on se rend compte dans une interview beaucoup plus de qui est l'intervieweur qu'est l'interviewé.
Donc, il a j'espère fallu... que vous me jugerez pas mal.
Je ne juge plus. J'ai lu les accords Toltec et je ne prends plus rien d'accord. Personnellement et j'essaye de ne pas juger. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai mis du temps à être à l'aise. Et aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier maintenant et je commence un peu à maîtriser ma com, entre guillemets. C'est-à-dire que je commence un peu à comprendre comment dire ce que moi j'ai envie de dire et pas forcément ce que l'autre attend. Et au départ, j'étais un peu trop docile. Et donc, toutes ces années... où j'ai fait quand même pas mal de télévision, ce qui vous expose, puisque vous êtes toutes les semaines à la une d'un télé quelque chose. Hein. Et du coup, il faut du contenu, raconter un peu des choses. Et puis, on a envie d'être sympa avec l'intervieweur, parce qu'on veut qu'il ait un petit truc à se mettre sous la dent. Et du coup, on répond gentiment. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais absolument pas obligée de faire ça. Je pouvais tout simplement dire ce que moi, j'avais envie de dire. Donc, je sais pas à quel moment... ce qui est certain, c'est que j'ai eu une petite défiance, on va dire, vis-à-vis des journaux... qui suivent les acteurs qui font des séries télé, donc ils doivent sortir beaucoup d'articles assez vite, toutes les semaines, il faut trouver un truc nouveau, il faut trouver du clash, il faut trouver des... Voilà, je me suis souvent fait avoir dans des faux trucs, où je me suis dit, mais enfin, j'ai jamais dit ça, des choses qui sont mises en exergue, qui deviennent des titres, alors que sont totalement sorties de leur contexte, j'imagine que vous connaissez vraiment ça très, très bien.
On ne retiendra ici que ce que vous direz, vraiment, je vous assure.
Ah non, mais je me sens, ici, je me sens en totale sécurité, pour le coup.
On va vous écouter chanteuse. Moi, alors je vais vous dire un truc.
Dites-moi.
Moi, j'adore quand vous chantez.
Merci.
Je ne savais pas que vous aviez commencé avec votre ami, là, Guillaume, à 14 ans.
Oui.
Mais moi, j'adore quand vous chantez parce que je trouve que vous avez un grain de voix qu'on ne trouve pas beaucoup dans la chanson française.
Merci.
Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Là, ça s'appelle Ça dépend.
Ah oui.
De qui ?
Alors, ça, c'est une chanson de Ours, Charles Souchon.
Ouais.
Et que j'aime énormément. Et c'est marrant parce qu'elle n'est pas très représentative de l'album, cette chanson. Mais ça a été le premier single qui a tout emporté. Et du coup, je ne suis même pas passée à autre chose après. Voilà, on a fait le premier album juste sur ce single.
Vous êtes sur MFM Radio. C'est donc Claire Kem qui, en même temps, est l'invitée et en même temps, fait la partie chanson. Après, elle fera aussi les questions. J'irai faire un tour.
Samedi Sabatier sur MFM Radio.
On retrouve Claire Kem alors avec un autre mot à vous. Un meilleur ami. Vous avez un meilleur ami ?
Oh oui.
Vous avez un meilleur ami ?
Oui, j'ai un meilleur ami.
Ça ne correspond à quoi, un meilleur ami ? C'est quelqu'un que vous pouvez déranger à n'importe quel moment ?
Lui, il aime bien... J'espère que cette blague... Attention, c'est une blague, je préviens. Il aime bien dire que c'est mon ami gay, pas gay.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, on comprend bien.
C'est-à-dire que je suis avec lui tellement à l'aise, tellement heureuse, tellement... C'est à la fois mon meilleur ami, mon frère, ma meilleure copine, ma mère, mon père.
Vous lui dites tout ?
Oui, vraiment tout.
Vos questionnements,
oui.
Vos doutes,
tout.
Plus qu'à votre compagnon ?
Oui, mille fois plus. Bien sûr, je parle.
Ah, c'est-à-dire qu'on peut être plus confident avec quelqu'un avec
bien
qui
sûr.
On ne partage pas ses jours et ses nuits.
Et l'homme que j'aime, je le protège de mes troubles et de toutes mes de tous mes questionnements. Heureusement, sinon ça serait injouable.
Vous étiez petite fille très confidente avec vos parents ou alors vous plutôt réservée ?
Je sais pas trop. Je sais pas quelle petite fille j'étais. J'avais la chance d'avoir un grand frère avec qui j'étais vraiment dans une relation fusionnelle.
Mais qui n'est pas votre meilleur ami.
Qui n'est pas mon meilleur ami, mais qui est mon grand frère et qui a un rôle extrêmement important. Qui a 2 ans de plus que moi, qui s'appelle Frédéric. Qui est quelqu'un d'extrêmement cadré, structuré, cartésien. Moi, je suis un peu un petit brouillon, un peu papillonnante.
C'est facile de vivre avec vous.
Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est peut-être pas facile, mais... Moi, j'ai une joie de vivre à toute épreuve. Non, je donc, je pense que déjà, ça, c'est pas
mal. Je vous pose la question parce que on va pas se cacher les choses. Vous êtes jolie, vous chantez
Merci.
Bien, vous présentez bien. Enfin, pour beaucoup d'hommes qui aiment les femmes, il y en a aussi. On a envie de se rapprocher de vous. Qu'est-ce qui fait que vous les avez séduits? Est-ce que vous connaissez toute cette étendue de votre charme?
Non, heureusement, j'espère. Non, je crois pas. Non, mais j'ai pris des gros vents dans ma vie aussi.
Hein. Non.
Ah si, heureusement. Ouais. Ah ben oui, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que...
Qu'est-ce qui a fait, je vous la pose autrement la question, que vous avez cédé de temps en temps et dit non beaucoup de fois?
Honnêtement, vraiment, je vous promets, déjà j'ai eu des grandes histoires d'amour, donc j'ai pas eu souvent... j'ai été rarement dans des situations de... de déclarer ma flamme à quelqu'un ou de... Ça m'est arrivé peu, mais en tout cas, je vous avoue que l'histoire d'amour que j'ai la chance de vivre depuis 15 ans, elle est tellement belle et tellement simple et tellement... je ne sais pas dire pourquoi je l'aime, je pense qu'il ne sait pas dire pourquoi il m'aime et je pense que le jour où on saura le dire, mais ça sera un peu fini.
Alors, un autre mot, Théâtre de Paris.
Ha.
C'est votre maison.
C'est ma maison. C'est là où j'ai débuté déjà, lorsque j'avais 16 ans. C'est ma première audition de ma vie. J'étais arrivée en RER à Paris, de la Gare du Nord, et jusqu'au Théâtre de Paris. J'étais venue passer cette audition, j'ai été engagée. Je suis rentrée le soir chez moi en disant à mes parents que j'allais arrêter l'école, qu'il fallait m'émanciper, qu'il fallait que j'ai une chambre de bonne à Paris, qu'il fallait évidemment que j'ai un carnet de chèques, qu'il fallait qu'on appelle la banque et tout ça. Mes parents m'ont regardée avec des yeux hallucinés.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 16 ans.
16 ans.
Et ils ont accepté, ce qui a été quand même fou.
Et quelle belle intelligence du cœur.
Mais surtout qu'à l'époque, pas de portable, pas d'internet, il y avait à peine le bebop, je crois. Donc c'est une époque...
Et quelques années après, vous vous retrouvez là, sur la scène du Théâtre de Paris, avec un succès. Nicholsonville, qui vous accompagne et qui est votre attaché de presse, nous dit que vous devez être très souvent, très longtemps avant, au théâtre. Vous avez besoin d'être dans les murs?
J'en ai envie. Bon, déjà, je vous avoue que moi, ma vie n'est pas à Paris, du coup... Quand je suis à Paris, j'ai du mal à m'organiser pour faire d'autres choses. Je suis là pour le boulot et en fait, je me réveille et je pense qu'à ça. Je pense qu'au soir, je pense, tiens, hier c'était comme ça, ça j'aimerais bien resserrer un peu ce passage-là. Tiens, je vais dire à Guillaume si on pouvait essayer ça, ça pourrait être marrant. En fait, je ne pense qu'à ça et ça me va très bien. C'est un peu obsessionnel, mais j'aime bien parce que j'arrive tôt, je retrouve les techniciens, Marina, Guillaume, Mehdi, Smaïl... Loulou.
Vous parlez des techniciens et pas des partenaires.
Ils sont pas encore les partenaires quand j'arrive.
Ouais,
on se retrouve dans la cuisine, on débriefe la journée, on débriefe les infos. C'est une famille. Moi, j'ai vraiment besoin de ce lien. Moi, je suis très famille. Hein. Quand j'ai pas ma famille, je manquerai une. Là, c'est eux. Et puis après, il y a les copines. En général, il y a Anso qui arrive en premier, Anne-Sophie Nalino qui joue dans la pièce. Après, il y a Muriel Combo qui arrive. Après, il y a Sophie Letellier qui arrive. Après, il y a Bénédicte qui arrive. Après, les garçons arrivent. Benoît Tachoir. Grégory Gerebaud, Jean-Yves Rohan, Jacques Fontanelle, Guillaume, Jean-Pierre Laurie, tout le monde arrive petit à petit et on descend toujours dans le même ordre, c'est rigolo. Quelle que soit l'heure à laquelle ils sont arrivés, on arrive toujours dans le même ordre, dans le foyer.
Alors d'abord, c'est un film américain, c'est devenu une pièce. S'il fallait que vous définissiez la garçonnière, c'est la fidélité, la Libye.
C'est marrant, moi je vois plutôt ça sur la corruption et sur... sur la manipulation au sein de l'entreprise et la misogynie.
Moi, en tout cas, j'ai vu la Libye aussi. Hein,
ouais, voilà, en fait, c'est une histoire... ça parle de façon très légère de choses très graves, en fait.
Oui, absolument.
Et apparemment, c'est une histoire vraie au départ. Il semblerait que cette histoire ait été soufflée à l'oreille de Billy Wilder par Tony Curtis, qui, en fait, prêtait son appartement à un copain comédien qui galérait un peu. Enfin non, dont ce copain comédien qui galérait... prêtait son appartement à Tony Curtis qui en échange lui filait des petites figures, des petits rôles dans les trucs qu'il faisait.
Et pendant ce temps-là, il avait l'appartement
de 5 à 7.
De 5 à 7.
Et il a raconté ce truc-là à Wilder qu'il a écrit et qui donc raconte cette histoire donc, de ce petit employé de bureau, Baxter, qui évolue au sein de cette société, qui un soir comme ça prête son appartement à quelqu'un qui veut passer du bon temps avec une fille et puis finalement le lendemain reprête. Et puis, nanana, puis un jour, il est convoqué par le grand patron lui passe un gros savon. Puis enfin, là...
Chut.
Ok. Je me tais.
Je n'en dis pas plus.
C'est
tellement bien fait. C'est tellement bien monté, tellement bien rythmé.
Il
y a vraiment Bon, chaque acteur joue parfaitement bien, qu'il faut simplement aller le voir. Faut pas dire
mais
la
même
fin.
Les gens
surtout
qui connaissent
la fin, d'ailleurs. La fin est surprenante. Hein.
Bah, c'est vrai, vous trouvez ?
Ah bah oui, parce que oui, enfin, moi quand je regardais ça...
En tout cas,
ça,
oui, c'est pas simple, c'est pas du tout clair.
Je me faisais plusieurs fins qui n'étaient pas celles que j'ai vues. MC Solar est sur MFM Radio, ça tombe bien, c'est la chanson que l'on aime bien, puisque MFM Radio est la première radio sur la chanson française.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Claire Keim, à l'affiche de la pièce La Garçonnière, au Théâtre de Paris.
Allez, un petit slide.
Slide.
Quand je suis amoureuse, on en a parlé. Est-ce que vous le sentez quand vous êtes amoureuse et comment vous le sentez?
Mais...
Comment ça se traduit? Quand quelqu'un vous plaît...
Je dois être toujours amoureuse, je sais pas, je cours. Par exemple, moi, quand à chaque fois j'ai rendez-vous avec mon homme, je cours. J'ai le cœur qui bat.
Ça, c'est formidable. Au bout de 15 ans, vous courez encore?
Ouais. Ouais, j'ai peur d'arriver en retard à nos rendez-vous. Ouais. Déjà, il n'aime pas que je sois en retard. Oui. Surtout, j'ai envie d'arriver.
Bien. Mais alors, quand vous êtes amoureux, je reprends ma question, mais après, on passera à autre chose. Est-ce que vous le sentez tout de suite? Est-ce que vous savez tout de suite quand quelqu'un vous plaît? Ou quand il ne vous plaît pas?
Oui, c'est au premier regard. Honnêtement, oui, c'est au premier regard. Oui. En tout cas, peut-être pas. Oui, non, une fois, je suis tombée amoureuse d'un homme un jour, au fur et à mesure. Je ne m'étais pas rendue compte. Et c'est en voyant, en fait, ça... Son altruisme, sa profondeur, son humour. Moi, l'humour, pour moi, c'est capital.
Essentiel.
C'est le truc qui fait basculer. Ouais.
Un autre mot.
Hop. C'est mon destin.
Alors justement, est-ce que vous pensez que tout est écrit, que vous avez un destin, que votre vie, quoi que vous fassiez, elle est quand même déjà bien écrite quelque part et que Claire Keim, son destin, c'est votre vrai nom, Claire Keim?
C'est le nom de ma maman, Keim.
Keim.
J'ai pris le nom de ma maman parce que le nom de mon papa, Lefèvre, était quand même extrêmement déjà banal. Et puis, il y avait un acteur et je ne voulais pas que trop qu'on me demande si j'étais la fille de Jean
encore,
Lefèvre.
Hein, Philippe Lefèvre
et
aussi.
Et Philippe, Philippe, c'est marrant parce qu'on est très copains.
Voilà.
Et d'ailleurs, il dit souvent qu'on est cousins.
Alors,
pas vrai.
Claire Keim, est-ce que votre destin existe ou est-ce que c'est vous qui le fabriquez?
Je ne sais pas, mais je trouve ça un peu triste de se dire que tout est écrit. Dans ce cas-là, on baisse les bras, on ne fait plus rien et on attend que ça passe. Non, non, moi je crois... On a la force d'agir sur la destinée. Je pense que c'est justement notre capacité à nous dépasser pour essayer d'être des gens mieux, d'être de meilleurs parents, de meilleurs amants. Je pense que c'est ça qui fait que on se forge un destin
vous
à la hauteur de ses
rêves. Vous plaisez davantage aujourd'hui?
Oui.
Vous trouvez mieux?
Je ne sais pas si je suis mieux. En tout cas, je suis plus en accord avec ce en quoi je crois. Moi, j'essaye depuis toujours d'être fidèle à mes rêves d'enfant. Donc je rêvais d'un monde, de paix, de solidarité, d'art, de musique, de chant, de théâtre. J'essaye de nature, j'essaye d'avoir toutes ces choses-là à portée de main.
Autre mot.
Trac. Catastrophe.
Vous êtes traqueuse?
Ah mais c'est monstrueux. Et en plus, c'est...
Là encore, ça se traduit comment?
J'ai envie de vendre mes organes pour ne pas monter sur le plateau.
Pas tous les soirs?
Non. Pas tous les soirs, c'est marrant. Hein. Pas tous les soirs. Certains soirs, je me sens souveraine. Je me dis, tout ira bien. Il n'y aura aucun problème.
Et ça a rapport avec ce que vous avez fait la journée, avec l'ambiance qui règne chez vous, non?
Il suffit qu'on me dise, tiens, il y a machin dans la salle. Je fais, ok. Ça peut me foutre un trac de fou. Ou alors, au contraire, me mettre dans un état d'euphorie totale. L'autre jour, il y a Juliette Binoche qui est venue. Ça fait un petit truc quand même quand on vous dit « Bon, il y a Juliette Binoche ce soir dans la salle. » Et en fait, je pensais que ça allait me couper les jambes. Et en fait, j'aime tellement cette actrice, je me suis dit « Elle va me porter. » Parce qu'elle, elle veut que ce soit bien. Et j'arrêtais pas de penser à elle, même entre les répliques. Je lui ai dit après. Je lui ai dit « J'arrêtais pas de penser à vous. J'arrêtais pas. » Et moi, ça me fascine. Comme le trac, c'est une science inexacte, quoi. On a beau en être à la 70e, et bim, on va se retaper un trac le pire encore qu'à la première. On ne sait pas pourquoi.
C'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on se remet un peu en cause et on n'est jamais vraiment sûr de soi. C'est plutôt rassurant.
De toute façon, moi, je ne suis jamais sûre de moi. Ça, c'est certain.
Allez, un autre mot.
Senlis.
Vous êtes une de Senlis.
Oui.
Combien de temps vous avez vécu là-bas?
Jusqu'à mes 16 ans. Je suis partie à 16 ans. En fait, je vivais...
C'est quoi? C'est pas tout à fait une ville de province? C'est pas tout à fait une ville de banlieue? C'est quoi, Senlis?
Alors, en fait, moi, déjà, j'ai grandi à Pont-Armé.
Ville royale?
Alors, Senlis, c'est une cité gallo-romaine, ouais, qui s'appelait Augusto Magus, qui est la cité de Hugues Capet, là où il a été fait
Je prends des notes, allez-y.
C'est en quoi? C'est en 907, je crois.
Oui, 906, 907, je m'en
souviens. Allez, on ne va pas chipoter sur les dates. Donc, c'est une très, 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 très belle ville, déjà, qui a été très souvent prisée pour le cinéma. Il y a eu beaucoup de films tournés là-bas, du Roi de Cœur jusqu'à La Petite Voleuse, en passant même par IP5, le dernier film, hélas, de mon temps. Il y a des forêts sublimes. Moi, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Pontarmé, qui est à 10 km de Senlis. Et je suis arrivée dans Senlis seulement vers mes 11-12 ans. Et c'est une très, très, très belle ville. À l'époque où j'y habitais, il y avait 15 000 habitants. Mais j'ai une mémoire folle, dis donc, pour vous sortir tous ces trucs-là.
Ben, c'est l'enfance.
C'est dingue, non? C'est incroyable, l'enfance, c'est gravé dans toujours ma tête. Et c'est une très, très jolie ville, vraiment.
Là, vous vivez en province ou à Paris?
J'habite au Pays Basque, oui.
Donc en province?
Oui, 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 en province, oui.
Ça
on
vous
peut
va
même dire, ah, mais c'est tout ce que j'aime, oui.
D'accord.
Oui, mais en fait, j'ai besoin, moi je suis un peu schizo, j'ai besoin d'avoir ces deux existences, c'est-à-dire je suis... au Pays Basque, une personne totalement différente de la personne que je suis quand je suis à Paris et que je suis là que pour le boulot.
Ça m'intéresse, vous êtes comment au Pays Basque?
Bah, au Pays Basque, je ne suis que pour ma famille et je m'occupe d'eux. Je veux dire, mes journées ne sont destinées qu'à rendre mes proches heureux et à ce qu'il y ait des trucs bons à manger à la maison, que la maison soit bien tenue, que le jardin soit bien tenu. Voilà, je pense famille, maison, cocon. Et ici, je suis une adolescente un petit peu inconsciente, un petit peu, comment dire, comment on dit, il y a un mot pour dire ça, tranquille,
légère,
quoi, légère, un peu, voilà, c'est le mot que je cherche, c'est désinvolte. J'ai une désinvolture à Paris que je n'ai pas du tout au Pays Basque.
Alors, Zazie, qui a une certaine désinvolture également, mais qui a aussi beaucoup de talent.
Et beaucoup d'humour.
C'est vous qui l'avez choisi, on l'écoute sur MFM Radio et on vous retrouve immédiatement après.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire sur MFM Radio.
Allez-y.
Ah, je slide.
Infidélité et alibi, c'est un peu la pièce. Est-ce que vous avez déjà menti beaucoup?
Oui, bien sûr. Oh. À qui?
Ah, non, ça c'est indiscret. Moi, je veux pas savoir. Est-ce que vous êtes une menteuse?
C'est grave d'être obligé d'y réfléchir, mais non. En règle générale, non, au contraire, je crois même que... Non, je me suis souvent disputée avec des gens justement parce que je suis un peu cash.
Non, mais je trouve que quelquefois, il y a des mensonges qui sont, salutaires.
Bien voilà. Sûr. Ah bah si on devait dire la vérité à tous les gens qu'on croise dans une journée, ça serait la guerre nucléaire.
Oui, on peut
donc
pas...
on est d'accord, mais c'est plus... En fait, plutôt que mensonge, je préfère... Il y a des petites hypocrisies qui sauvent, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, tu trouves que ça me va bien? Ouais, c'est très joli.
Ouais. Allez, un autre mot. Votre plus lointain souvenir, quand Claire Kem se souvient de Claire, ça remonte à quoi? À 3 ans, à 4 ans, à 6 mois? Allez, faites l'effort. Regardez-vous.
C'est marrant, je repense à quand j'ai mis les doigts dans la prise. Je devais avoir 4 ans. En fait, je pense au moment où je pense que je suis née. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais vivante avant, mais déjà, j'étais trop petite pour m'en rappeler. Et puis surtout, je me souviens très très bien de cette odeur abominable d'Aquin Cooper dans laquelle trempaient mes mains, puisque je me suis fondue les deux mains dans une prise électrique. Et j'étais à l'hôpital et il y avait des électriciens à côté de moi qui avaient, voilà, pareil, qui s'étaient pris des grosses châtaignes et qui étaient en train de tremper un bout de ce qui s'était brûlé dans du liquide. Et je me rappelle de cette odeur et je me rappelle surtout du sentiment de « Ah ben c'est, en fait, c'est la vie, c'est pas mal en fait. Ça va commencer maintenant en fait.
Voilà. » Ah oui, donc prise de conscience.
Oui, je me suis dit... En fait, je sentais toutes les odeurs. Je sentais l'odeur des arbres. La fenêtre de l'hôpital est ouverte. Il y avait l'odeur des arbres mélangée à l'odeur du Dakin Cooper, mélangée à l'odeur du sol et du détergent, mélangée à l'odeur des gens qui étaient là. Tout à coup, c'est une espèce de bouquet d'odeurs qui m'a sauté au nez. Et je me suis dit, la vie reprend. Ça y est.
Vous êtes la deuxième, hein?
Oui, je suis la deuxième, oui.
Vous avez été très aimée.
Très aimée.
Très, très, très aimée.
Oui, je crois vraiment pouvoir dire que j'étais
ça
très, très aimée. Ben, c'est la seule façon. Comment faire autrement?
Là, vous avez un enfant?
Enfin, j'en ai une à moi j'ai faite avec mon corps. J'en ai un à moi que je n'ai pas fait avec mon corps, mais que j'aime autant qu'à 21 ans.
Allez.
Il s'appelle Chimista.
Un autre.
Quand je me regarde...
Quand vous regardez...
Aïe, aïe, aïe. Ça dépend où.
Ben, déjà, on va dire la chose la plus simple, dans le miroir de la salle de bain.
Ben, vraiment, ça dépend des jours. Il y a des jours où je fais « Ah non, ça va en fait ». Et puis des jours, je fais « Oh non, mais c'est pas possible, mais pourquoi ?» Pourtant, j'ai dormi, j'ai pas bu hier.
Franchement ?
Non, franchement. Il y a des jours où je... Non, des jours où c'est pas génial. Mais heureusement, oh là là.
Mais moi, je vais vous faire une déclaration. Je connais votre compagnon, donc avec tout le respect que je lui dois, je l'aime beaucoup. Vous êtes superbe.
Mais merci. Je vais venir ici tous les jours.
Non, parce que si vous, vous dites, il y a des jours,
mais heureusement,
ah bah dis donc le miroir,
ça.
Alors d'autres, le miroir il est cassé.
Mais c'est compliqué de vieillir, même pour, enfin, je veux dire, même quand on est jolie et qu'a priori on vieillit pas trop mal. Déjà une actrice qui vieillit, c'est vachement compliqué. L'autre soir, ils rediffusaient des téléfilms de moi d'il y a 15 ans. Je me voyais, je faisais, oh là là, mais j'étais toute mignonne et tout. Et je me dis, à l'époque, je ne me trouvais pas jolie. Donc, ça veut dire que peut-être dans 20 ans, quand je verrai des photos d'aujourd'hui, je dirai, oh, bon, ça va, en fait.
Alors, on continue. À la vie, à la mort. Est-ce que vous avez dit à quelqu'un, à la vie, à la mort ?
Non. 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 À la vie, à la mort ? Bah, non. Je ne sais pas ce que ça veut dire, à la vie, à la mort.
Bah, je suis à toi, à la vie, à la mort, c'est-à-dire...
Bah, non, sinon, il n'y a plus de challenge. C'est pas très drôle. Mais non, justement, moi, c'est pour ça que je ne suis pas mariée, c'est pour ça que les gens ne nous appartiennent pas. On ne peut pas faire une promesse qu'on ne pourra pas tenir. Ce qui est magnifique, c'est justement de... Moi, je remets en question tout le temps. Et c'est pour ça que ça dure.
Mais vous n'êtes jamais tranquille ?
Non, jamais tranquille. Je pense que l'intranquillité, c'est quelque chose de primordial.
Mais vous ne trouvez pas que le bonheur...
est chiant ? Non.
Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout dit ça. Mais le bonheur, dans une forme... Je le fais exprès, de banalité, de...
Ah, c'est bien.
C'est bien aussi.
Ah ouais, c'est génial, hein, ça. Mais le bonheur, c'est pas forcément être sûr et certain que rien ne bougera jamais. Pour moi, ça ressemble au malheur, un peu. Pour moi, le bonheur, c'est justement le doute.
Mais quand on aime et quand on est aimé, on se dit pourquoi aller...
Ouais, mais ce qui est super, c'est que justement, on a le cœur qui bat en se disant « Ah là, je suis encore plus amoureuse que lui en ce moment. Là, c'est moi en ce moment qui suis plus amoureuse. Pourquoi ? Je vais essayer de le reconquérir un peu. Et puis le mois prochain, ce sera lui qui me courra un peu après. » Nous, on a des moments comme
vous,
ça.
Vous faites en sorte qu'il vous court après ?
Ah bah quand je sens qu'il s'en fout un peu, ouais, je suis un peu moins collante. Et puis tout à coup, ça... Je sais pas, j'essaie de m'adapter. Déjà, j'essaie de pas trop échafauder des stratagèmes comme ça. Mais quand je me sens un peu frustrée, que j'ai l'impression que si, c'est que dans un sens et tout, évidemment, j'essaie d'être un tout petit peu moins acquise.
Alain Bachung, c'est également votre choix sur MFM Radio. Première radio sur la chanson française. Je le dis et je le répète parce que ça fait du bien.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire avec Claire Keim à l'affiche de la pièce La Garçonnière au Théâtre de Paris.
À vous de jouer.
Je glisse.
La tablette, vous glissez.
Hop, j'y pense tous les jours. Ah, plein de choses. Bon, je vous passe évidemment les personnes que j'aime le plus, hein. Ça, évidemment. J'y pense tous les jours, hein. Aux autres. Moi, je ne m'habitue pas à la pauvreté. Je n'arrive pas. Donc, je les vois tous les jours, parce que tous les jours, je vais à pied au théâtre. Je croise à peu près 15 personnes, 20 personnes, parfois 30 personnes. Et pourtant, je fais 20 minutes de marche, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et j'y pense tous les jours et je ne comprends pas qu'en 2017, il y ait autant de gens dans la rue en France. Ça me semble totalement fou, ridicule, misérable. Et j'ai honte. Voilà.
Autre mot.
Les enfoirés.
L'un va avec l'autre.
Bah voilà.
Pourquoi vous faites partie des enfoirés ?
Bah pourquoi je dirais non ? C'est impossible de dire non quand on nous appelle.
Mais pourquoi vous ont demandé ? Et quand ?
Ils m'ont demandé... ils m'ont demandé quand je venais de faire le duo avec Marc Lavoine et que je venais de faire Zodiac. Donc en gros, j'étais en haut d'une vague de popularité. Parce qu'en fait, le principe des enfoirés, c'est qu'on prend des gens qui ont fait des gros scores en chanson ou en cinéma ou en télé, de façon à ramasser le plus de gens possible, tout simplement. Donc moi, ils m'ont proposé à ce moment-là. J'étais hyper touchée parce que je suis une enfant des enfoirés. Moi aussi, j'ai toujours regardé les enfoirés depuis que je suis petite. Et du coup, je trouvais que c'était formidable de pouvoir faire partie de cette équipe et d'être à l'intérieur et de pouvoir voir comment ça se passe. Et puis, c'est un truc super concret, quoi. C'est-à-dire que ça rapporte en gros 22 millions de repas par année. Voilà, c'est super concret. On rencontre des gens là-bas, les bénévoles, qui, eux, se battent tous les jours. Parce que nous, c'est 10 jours épuisants, certes, mais c'est que 10 jours. Eux, c'est tous les jours. Et on n'a pas trouvé mieux, donc on continue. Évidemment que je suis tout le temps blessée par les attaques qui sont faites régulièrement sur les enfoirés parce que qu'est-ce qu'on fait ? Donc on refuse de faire les enfoirés parce qu'on a peur d'être taxé de faire sa propre promo. Donc on dit bah non, je vais pas parce que je veux pas qu'on croie que je fais ça pour que machin. Donc du coup, c'est complètement nul, ça n'a pas de sens. Moi, tant qu'on me demande d'être là, je serai là. J'ai pas postulé à ce poste. On me l'a proposé. Ça me semble impossible de dire non, de la même façon qu'il me semble impossible de dire non quand une association me demande d'être présente pour un truc et que je peux, en termes de temps et de voilà. C'est moi, je suis du côté de tous les gens qui se bougent. Voilà, dès que je peux être là, je suis là.
Autre mot.
Quand je serai grande.
Est-ce que vous êtes grande?
Par la taille, pas mal.
Est-ce que vous êtes grande? Est-ce que vous vous dites, maintenant je suis une grande...
Non.
Ne le prenez pas mal, hein. Je suis une grande fille, je suis une grande femme.
Non, non, je reste une enfant. J'ai pas... En fait, c'est facile un peu de dire ça. Hein. Beaucoup d'artistes vous diront, ah mais je suis un enfant, je suis gna gna gna. Moi, je suis très responsable, je m'occupe de tout moi-même, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, je suis assez... En revanche, j'ai des réactions assez épidermiques comme les enfants. C'est-à-dire que j'ai pas... Je tourne pas autour du pot pour dire que ça me plaît pas, et je tourne pas autour du pot pour dire que ça me plaît. Voilà, je crois que je m'inaude pas.
Mmh.
C'est-à-dire que quand ça me plaît, ça me plaît. Je fais des déclarations d'amour. J'ai aucun problème à dire aux gens que je les aime et que je les adore. Donc grande pour moi, qu'est-ce que c'est être grand? Pour moi, la grandeur pour moi, c'est une forme de sagesse. Donc j'aspire à la sagesse. J'essaie de m'entourer de gens qui me font réfléchir. J'essaie de m'occuper de lectures qui me font avancer. Mais devenir grande, grande comme qui, par exemple?
Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont conduit, des exemples?
Oh bah oui. Oh, les femmes... Ah oui, oui, moi, j'ai une maman
vous parliez,
très...
Vous parliez de partager, d'association, presque de bénévolat. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça, en ligne de mire, en disant, oh, c'est une grande femme?
Ah oui. Déjà, il y a des... Par exemple, tout à l'heure, je lisais un petit article sur Agnès B., par exemple.
Mmh.
Ouais, pour moi, c'est une très, très grande dame, cette Agnès B.,
mmh.
qui, dans l'ombre, d'une façon extrêmement pudique, donne des millions à des associations, est toujours présente du côté des exclus, des opprimés. Ça, je trouve que c'est magnifique. Quelqu'un comme Simone Veil est un exemple pour moi. Bon, évidemment, c'est un peu facile, mais c'est déjà une femme d'une beauté hallucinante. Et puis ce qu'elle a fait pour nous, les femmes, est immense. Moi, je serais éternellement reconnaissante.
Mais il y a des femmes... Les hommes aussi lui sont reconnaissants.
Je pense aussi. Des femmes comme Jane Goodall, qui a travaillé auprès des singes. Je ne sais pas, moi, il y a des tas de femmes. Voilà, Isabelle Autissier, Florence de Monclin, qui travaille à la Fondation Nicolas Hulot. Elle n'est pas connue, mais moi, je la connais. C'est une femme qui, tous les matins, m'envoie une revue de presse avec toutes les bonnes nouvelles en matière d'écologie. Et je la remercie parce qu'elle m'évite... souvent la dépression nerveuse. Je me dis, en fait, ça va, il y a une forêt qui pousse en douceur et on ne l'entend pas pousser. Il y a toutes ces femmes qui se battent. Et non, je trouve qu'il y a énormément de grandes femmes, oui, énormément.
L'heure passe, c'est le dernier mot.
Pardon.
Je vous en prie.
Vous voulez dire que ça fait 5 minutes qu'on parle et c'est déjà fini?
Je suis en train de vous dire qu'on va recommencer l'émission parce qu'on n'a fait que commencer, mais ça me fait craquer. Qu'est-ce qui vous fait craquer?
Ah, ça me fait craquer... Vous
êtes tellement mince, tellement
non,
fine.
Pas trop.
Si, je vous assure. On va arrêter de me dire pas trop. Alors.
Non,
nous, on est tous des hippopotames. Dites-moi, vous êtes gourmande?
Hyper gourmande. Ouais. En fait,
qu'est-ce qui vous fait craquer, par exemple?
Le bon vin, déjà.
Oui.
Moi, j'adore le vin. J'adore les gâteaux. Je fais beaucoup de gâteaux.
C'est vrai?
Ouais. Ah oui, je suis vraiment. Moi, je suis très gâteau.
Chocolat.
Bah, j'ai encore fait hier, voilà. Hier, en fait, j'ai commencé par faire des gaufres. Et mon mec est arrivé, il fait « Ah oh bah, t'as pas fait des crêpes !» Et d'un coup, j'ai rajouté un peu de lait, un peu de bière dans mes gaufres, et pouf, c'est devenu des crêpes. Et on a tout mangé. Voilà. Non, j'adore. Je suis très, très gourmande, et j'adore.
Et à part la nourriture, qu'est-ce qui vous
qu'est-ce
fait craquer?
Qu'est-ce qui me fait craquer
L'humour, vous disiez.
Ah oui, bah moi, j'ai besoin de rire, vraiment. Oui. Ah oui, j'ai l'absurde, ouais. Les trucs débiles, les trucs absurdes, ça me fait vraiment beaucoup rire.
C'est la fin de l'émission. Vous avez vu, ça passe
vite. C'est de la folie, carrément.
On essaie d'en refaire une autre.
Ah, mais quand
une
vous
autre
voulez.
Fois. C'est quoi votre actualité? C'est la garçonnière encore longtemps?
Alors, c'est la garçonnière jusqu'au 30 juin. C'est donc les finitions de mon album qui va sortir à la fin de l'année, je pense. C'est deux téléfilms, enfin non, un téléfilm qui s'appelle Le Soif de Vivre, qui traite d'un sujet très difficile, qui est l'alcoolisme. Je joue une jeune maman alcoolique qui lutte. Et donc ça, c'est un très, très beau film pour France 2. Et par ailleurs, je participe à une série qui s'appelle Insoupçonnable pour TF1 avec Maëlle Poupeau, Emmanuel Seigné, Jean-Hugues Anglade, Patrick Chenet notamment. Et voilà. Et sinon,
c'est déjà pas mal.
Voilà, et sinon, je profite de cette antenne et de cette petite fenêtre médiatique pour proposer à tous nos éditeurs d'aller faire le 32-32-1 et d'envoyer présent, c'est l'appel des solidarités. Juste si vous êtes d'accord pour un monde meilleur, plus juste, faites-vous connaître, comptons-nous, recensons-nous, les gens qui sont d'accord pour ouvrir les bras plutôt que de construire des murs.
Voilà, Claire Kem a fait son émission, on se retrouve samedi prochain, oh, peut-être avant.
Retrouvez le meilleur de Samedi Sabatier, l'interview, dès maintenant sur mfmradio.fr, rubrique podcast.